Regarde-moi ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. Hein.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ton roi!
C'est absolument dément.
Le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça, la vie. Numéro.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. C'est Lorena au micro et aujourd'hui, je t'emmène du côté obscur du voyage quand ça se passe pas forcément comme on avait prévu, mais alors pas du tout. Et on est là aujourd'hui avec Anna. Salut Anna, comment ça va?
Salut Lorena, ça va bien, très bien. Merci en tout cas d'inviter sur le podcast.
Merci à toi d'être là. Alors moi je t'ai connue sur les réseaux sociaux, TikTok pour pas le nommer, à travers une vidéo assez impressionnante slash flippante. D'une expérience qui t'est arrivée en voyage il n'y a pas très longtemps, et t'étais à l'autre bout du monde, c'est ça?
Oui, c'était au Vietnam en octobre-novembre 2022. Oui, c'est ça, 2022.
Ok, donc c'était il n'y a pas super longtemps. On ne va pas dévoiler tout de suite ce qui s'est passé, on va un peu garder le suspense. Mais j'ai eu envie de t'inviter à partager cette expérience avec nous parce que voilà, les pépins, ça fait partie des voyages... aussi, et je me dis qu'on va peut-être, on va certainement tous ressortir un petit peu plus grandis après le podcast et ce que tu vas nous dire, les conseils que tu vas nous donner à la fin, si jamais on se retrouve partagé, confronté à cette situation, qu'on soit un petit peu plus équipé. Donc sur les réseaux, tu es connue sous le pseudo de Anna Loves Food and Travel.
Exactement, avec tiré du bas, tiré du 8 entre chaque. Entre chaque mot sur Instagram.
C'est ça. On mettra tous les liens dans la description pour que les personnes puissent aller te suivre ensuite. Donc, j'imagine que là, quand tu pars au Vietnam, ce n'est pas ton premier voyage.
Non, ce n'est pas mon premier voyage seul. Donc, moi, j'ai eu la chance de voyager avec mes parents quand j'étais petite. Mais bon, c'était dans un cadre, voilà. Mais on va dire que mon premier voyage seul, c'était... j'avais 21 ans et je suis partie en Andalousie. Toute seule, 4 jours. Ça a été une expérience assez, assez forte en émotion puisque je me souviens, j'étais dans le train pour partir en Andalousie pendant la semaine sainte, donc c'était pendant Pâques, une des semaines les plus importantes en Espagne. J'étais dans le train et j'ai pleuré, j'avais les larmes aux yeux, j'étais là, j'ai pas d'amis, je voyage toute seule, c'est pas normal, j'ai 21 ans. Donc voilà, donc moi je trouvais ça, c'était vraiment perturbant comme expérience, mais parce que j'avais une collègue qui m'avait dit il vaut mieux partir seul que de pas partir du tout. Et ça, ça m'a vraiment changé ma perspective parce que j'étais en train un peu de me plaindre. Je dis oui, en fait, chacun avait prévu ses vacances un peu à droite à gauche. Et moi, je dis moi, je veux vraiment aller en Andalousie. J'ai toujours voulu voir Séville. Enfin, elle m'a dit mais vaut mieux partir seul que de pas partir du tout parce que là, je me suis dit en fait, oui, je vais pas rester dans ma petite ville. J'étais en Erasmus en Espagne à ce moment-là et je me suis
dit... Ah oui, t'étais déjà en Espagne.
Ouais, j'étais déjà en Espagne. Donc c'est pour ça que j'ai pris un train pour l'Andalousie. Je me suis dit, c'est l'occasion, je suis en Espagne, je vais visiter l'Espagne. Et j'ai dit, en fait, je ne vais pas rester dans ma petite ville à Pâques, il va y avoir personne. Les Espagnols sont très familles, donc ce n'est pas comme s'il y avait plein de choses qui allaient se passer. Je me suis dit, vaut mieux que tu partes toute seule. Et j'avais décidé de partir 4 jours. Comme ça, je me suis dit, c'est pas trop long. Comme ça, s'il y a vraiment un souci ou que je suis vraiment trop triste, je peux rentrer en tout cas chez moi.
Et comment ça s'est passé au final? C'était quoi ton ressenti de voyager pour la première fois toute seule?
Alors, c'était très enrichissant comme expérience parce que je pensais au départ que je n'étais pas capable de le faire, comme beaucoup, on va dire, en plus de femmes seules qui voyagent. Donc, je suis partie 4 jours et les 2 premiers jours se sont extrêmement bien passés. Je suis allée en auberge de jeunesse et c'était la première fois que j'allais dans une auberge de jeunesse et je connaissais pas le principe. Donc, c'est la première fois que j'étais en dortoir, que je rencontrais du monde, que les gens sont quand même assez ouverts. Et puis, en Espagne, il y a vraiment plus cette vibe de, voilà, les gens viennent te parler. Même les voyageurs, ils sont assez ouverts. Et lors d'un free walking tour, vous savez, c'est un peu les tours gratuits qu'organise la ville, etc. J'ai rencontré une Américaine pendant le tour. Et en fait, elle habitait dans la même ville que moi, là où je faisais mon Erasmus. Du coup, on a vachement cliqué et on s'est revus après dans ma ville là où j'ai fait mon Erasmus. Et ensuite, elle est venue chez mes parents en France pendant 2-3 jours.
Ah oui, vous l'avez vraiment bien sympathisé, quoi.
Ouais, voilà. Et elle, ça lui faisait plaisir parce qu'elle était au pair, je crois, en Espagne. Et du coup, après, avant de partir, de rentrer aux États-Unis, elle faisait un petit tour d'Europe. Et du coup, je lui ai montré Marseille parce que mes parents habitent pas loin de Marseille. Donc du coup, forcément, montrer Marseille à un Américain, c'est vraiment une expérience pour eux. Donc, ça s'est vraiment bien passé. Et ensuite, du coup, après, j'ai changé de ville. J'étais partie à Séville. Là, ça s'est mal passé dans le sens où je pensais avoir rencontré des gens comme j'avais pu rencontrer cette Américaine-là. Et du coup, bah, je pars avec cette énergie. Je vais rencontrer du monde, ça va bien se passer, etc. Le destin est de ton côté.
Oui, c'est ce qu'on dit en plus. On dit que quand on voyage seul, c'est plus facile de rencontrer des gens. Les gens viennent aussi plus vers toi.
Oui, c'est sûr. En plus, je pense qu'en étant une femme, c'est vrai qu'on attire, je pense, la sympathie. C'est vrai, je pense que les gens viennent, on fait moins peur, je pense, qu'un homme seul, par exemple, j'imagine. Hein. Mm-hmm. Et du coup, je rencontre une fille dans mon auberge, je crois qu'elle venait du Brésil. Donc voilà, pareil, très international, très sympa. Et elle me propose le soir d'aller manger ensemble et qu'elle doit rejoindre un ami américain avec qui elle avait fait des cours d'espagnol ce mois-ci en Espagne. Et ce type-là, je me souviendrai toujours, je pense qu'il ne devait pas supporter que je sois là avec elle. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait de la conversation, il ramenait toujours des souvenirs entre eux deux et ne m'incluait jamais dans la conversation. Et moi, du coup, j'essaie de lui poser des questions, j'essaie d'être sympa. Pourquoi t'es venue en Espagne, etc. Et lui, il me répondait, mais de manière hyper condescendante. Il était là, c'est pour apprendre l'espagnol, obviously. J'étais là, ok. Bon, très sympa le type. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'en pouvais plus. Il me saoulait. La fille était très sympa, mais lui, j'en pouvais plus. Et à un moment, j'ai dit, je suis désolée, je suis fatiguée, il était tard, je suis désolée, je vais rentrer à l'auberge, je vais me reposer, demain je dois partir, c'était mon jour de départ de toute façon. Et j'ai dit au revoir à la fille qui m'a dit, salut Anna, peut-être qu'on se verra demain matin avant que tu partes. Et le gars ne m'a même pas dit au revoir, pour vous dire que qu'il était vraiment pas sympa. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis pas encore fatiguée, et je me suis fait un petit tour dans ces villes, je suis allée me prendre une glace toute seule, j'ai mangé une petite pâtisserie, je sais plus ce que j'ai fait. Et là, j'ai vraiment kiffé. Je me suis dit, en fait, j'ai le pouvoir de dire si ça se passe pas bien, si je n'aime pas les gens avec qui je suis, de dire, non, salut. Et là, pour le coup, j'ai vraiment apprécié le fait d'être seule plutôt que d'être avec des gens qui n'apprécient pas ma présence.
Ouais. C'est bien aussi, ça permet d'apprendre des choses sur soi aussi, de se dire, finalement, être seule, c'est pas si pire.
Non, voilà.
On a une liberté de choisir où on va, ce qu'on va faire, ce qu'on va manger, à quelle heure on veut rentrer.
C'est ça. Surtout ce qu'on va manger, parce que moi, je supporte pas d'aller au McDo quand on voyage, parce que je suis là. Après, il y en a, c'est un peu leur défi. S'ils veulent tester tous les McDo, je me dis ok, why not. Ça peut être sympa comme goal, mais moi, j'apprécie pas du tout. Je préfère aller manger quelque chose de local et tester des trucs que j'ai pas testé que d'aller au McDo. Donc quand je suis toute seule, j'ai le choix. Et quand on a qu'un groupe, souvent c'est normal, je peux comprendre que le McDo ou un autre fast-food ce soit une option très facile, mais du coup là je suis contente de ça. Surtout moi, c'est très important, donc
c'est ça, j'allais rebondir sur finalement ce que tu partages sur les réseaux, parce que c'est quand même dans ton pseudo, Love Food and Travel. Et je me demandais, quand tu choisis une destination, tu l'as choisie en fonction de la nourriture locale ou
J'aimerais, mais on va dire comme tout le monde, c'est le budget. C'est le budget et le temps. Mais on va dire que une fois que j'ai choisi ma destination, les choses que j'ai envie de visiter, etc., ce qui est sûr, c'est qu'une fois que j'ai choisi ma destination et le temps, je regarde ce qu'il faut manger et je regarde où est-ce qu'il faut manger. Et ça, c'est sûr. Et que ce soit faire un food market ou un resto, je ne fais pas des restos chers, mais on va dire des restos locaux, je regarde absolument le must à essayer. Faut pas que je parte de ce pays sans avoir goûté ça. Et à chaque fois, c'est un peu mon objectif.
Et comment tu te renseignes sur les spécialités culinaires là-bas? C'est quoi tes petits tips?
Alors moi, je suis très adepte du guide du routard. Mm-hmm. Je pense que c'est mieux que... Alors je fais un peu de la pub, mais je pas... enfin, c'est vraiment... Je suis une utilisatrice... converti par le guide du routard, parce que c'est vraiment extrêmement bien fait pour les voyageurs. Il propose plein de tips, en fait, qui ne soient pas forcément au niveau culinaire, mais comment les locaux vivent, quelles sont les fêtes célébrées, par exemple, tout au long de l'année, etc. Et quand j'étais partie en Chine, oui, ils avaient dit qu'il fallait essayer. Il y avait plein d'insectes à essayer et que je n'ai pas pu tout faire. Et puis aussi, il y a pas mal de spécialités, on va dire, au niveau des régions. Mm-hmm. Et au niveau de l'année, surtout en Espagne, par exemple, en Espagne, on ne va pas manger Pas qui mangent voilà, leur Pasqua, là, j'ai oublié le nom, pastel des Pasqua, la Mona des Pasqua, et ça, bah, si on arrive en plein été ou en plein hiver, on ne l'aura pas. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment, moi, je fais souvent ça, un guide, le guide du routard, ou sinon, bah, comme tout le monde, Internet, que manger dans ce pays à telle période de l'année. Et en général, on a une liste, oui.
Très bien. Et pour le Vietnam, alors, c'était tu partais dans quel cadre ? Est-ce que tu partais toute seule ? Est-ce que tu partais dans un but ? C'était quoi le contexte ?
Alors, moi, je suis partie au Vietnam, c'était pas prévu.
C'était pas prévu ?
C'était pas prévu. Je suis partie. Enfin, j'ai eu un licenciement économique assez violent le 1er août 2022, je m'en souviendrai toujours. Et du jour au lendemain, entre guillemets, j'ai perdu mon travail. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une compensation économique où j'ai eu 3 mois de salaire. Donc, j'avais...
Okay, 3 mois de salaire, comme si tu travaillais, mais tu ne travaillais pas.
Exactement. Okay. Donc là, je me suis dit, bon, tu as quand même 3 mois de salaire plein, faut en profiter. Bon, j'avais des vacances prévues en septembre, donc du coup, août, je ne suis pas partie. Septembre, j'avais mes vacances et en octobre, j'avais octobre de libre. C'était dans un contexte aussi particulier puisque 2 semaines après, je venais de rompre avec mon copain de l'époque et c'était un moment très difficile. Je pense que tout le monde qui est passé par des ruptures peuvent comprendre par quoi je suis passée. Perdre son taf, son ex, tout en même temps, j'étais là, mais c'était vraiment horrible. Je suis vraiment passée par une période très, très dépressive. Oui. Et je me souviens quand je me suis dit, bon, de toute façon, Anna, t'as l'occasion, tu vas avoir presque 2 mois de libre. Jusque fin novembre, mi-décembre même, il faut que tu utilises ton temps.
Donc, j'avais
tout octobre jusqu'à mi-décembre. Je me suis dit, bon, allez, je me prends octobre-novembre à peu près et je pars un mois et demi. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je savais que j'avais un salaire et je savais que là où c'était le plus abordable, c'était l'Asie. Sur place, j'ai envie de dire, c'est pas cher, les billets c'est cher, mais une fois sur place, on peut vraiment en profiter. Moi, j'avais déjà voyagé en Asie à l'époque, j'avais fait l'Indonésie seule, donc je connaissais un peu, on va dire, la vibe, comment ça se passe dans les pays asiatiques. Donc, je savais qu'on peut arriver dans une auberge de jeunesse et réserver une activité du jour au lendemain. Il n'y a pas besoin de trop réserver en avance, donc il y a un côté très flexible. Et je me suis dit, j'ai entendu beaucoup de bien du Vietnam, c'est un pays très, très connu. Et je me suis dit, je vais aussi en profiter pour aller au Cambodge, puisque j'ai une amie qui est cambodgienne et qui m'avait dit, Anna, si tu viens en Cambodge, moi, je vais te montrer mon village, en fait.
Génial.
Voilà, elle n'habite pas dans la grande ville, à Phnom Penh, elle habitait dans vraiment un tout petit village. Et je me suis dit, c'est génial, je vais me faire 3 semaines au Vietnam, je vais me faire 2 semaines au Cambodge, je voulais absolument faire le temple d'Angkor. Et pour repartir, les billets n'étaient pas trop chers depuis la Thaïlande, donc je passais 2 jours à Bangkok. Donc je me suis dit, parfait, je vais aller faire mes street food market à Bangkok. Bon, c'est pas la meilleure ville, mais pour manger, très bien. Donc voilà. Et comme ça, je vais pouvoir rentrer à Berlin où j'habite actuellement, donc en Allemagne. Donc ça, c'était le plan de départ, donc partir à un mois et demi. Et je me souviens, quand j'ai réservé mes billets d'avion à droite à gauche, j'étais en larmes derrière mon ordinateur et j'étais c'est trop bizarre parce que j'étais contente. De programmer, c'est un projet au fait, au final, de partir, obligé de penser à plein de trucs, les assurances, les vaccins, plein de choses. Et en même temps, j'étais très triste et donc j'étais un peu dans une ambiguïté quand j'ai réservé mes billets.
Oui, c'est ça, parce que tu venais de vivre de choc, entre guillemets, parce que perdre son travail aussi, c'est un peu, ça peut être vécu comme un choc aussi, et la rupture, et en même temps, maintenant, programmer des choses pour toi seule. Et plus penser pour à deux aussi, c'est aussi une adaptation. Et là, tu l'as fait super rapidement. Et pour, il faut des vaccins. T'as fait quoi comme vaccin pour aller au Vietnam ou au Cambodge, si tu t'en souviens ?
Alors, j'en ai fait plusieurs. En fait, comme moi, j'habite en Allemagne, c'est vrai que le process est un peu différent qu'en France. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais en Allemagne, à Berlin, il y a l'université de médecine qui s'appelle Charité. Et en fait, ils ont un centre de voyageurs. Donc, j'imagine qu'il y a des choses un peu similaires en France. En Espagne, j'avais fait pareil pour l'Indonésie. Je suis allée dans un centre de voyageurs. Ils ont dit, je vais dans ce pays-là pendant tant de temps et je vais dans ces zones-là. Parce que si on dit que si tu vas dans la pampa, dans la jungle et tout, tu ne vas pas du tout avoir les mêmes vaccins. Et comme moi, je partais moins d'un mois, j'avais droit à on va dire, la base. Donc, il y avait, je pense, hépatite A, hépatite B. Et après, ils te donnent des options. Donc, il y avait l'encéphalite japonaise. Mais ils n'avaient plus les vaccins, donc ils ont dit bon, si on le reçoit à temps, on vous le fait le vaccin. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux que vous, c'est mieux de l'avoir. Je pense qu'il va y avoir la polio aussi. Mais en tout cas, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut arriver, on dit ces dates de départ. Et ils nous font tous les vaccins qui sont recommandés. Voilà. Donc, il faut un peu se préparer à l'avance parce que certains, il y a besoin de rappel. Voilà. Donc, ça se fait, si on va dans les centres de voyageurs, ils nous aiguillent en fait. Donc, il n'y a pas…
Ouais, c'est tout centralisé.
C'est vraiment très, très bien fait pour le coup.
Ouais. Et donc là, tu es prête, tu as fait tes vaccins, tu as fait ta valise, ton sac hein, plutôt, ta valise. Ouais.
Mon gros sac à dos.
Mes visas. T'avais combien de kilos sur ton dos là pour le mois et demi?
Alors j'avais un petit pèse-bagage. Le pèse-bagage disait 9 kilos, mais je pense que c'était pas possible parce que sur place, donc, j'ai rencontré ma co-voyageuse qui s'appelle Célia et elle avait 9 kilos. Et quand j'ai pesé mon sac, j'ai dit c'est mort, je pense que le mien il faisait 12 kilos. Donc un autre tips, c'est bien d'avoir un gros sac, parce que moi j'ai un gros sac à dos, mais plus il y a d'espace, bah, plus on le remplit et plus ça pèse très vite. Et c'est très drôle parce que moi j'avais amené plein de trucs, dont une lampe un peu de poche dynamo. Et je me souviens quand j'avais dit à Célia, j'ai pris une lampe de poche dynamo, elle avait rigolé, elle me disait, mais Anna, pourquoi t'as pris une lampe de poche dynamo? Genre on n'en a pas besoin. Et ben on en a eu besoin et j'étais très contente et du coup on a bien rigolé de cette expérience là donc c'est un peu un choix, mais c'est vrai que 12 kilos c'est vraiment trop, je pense que 9 c'est bien, surtout quand on est un peu en mode backpack, on bouge environ tous les 2-3 jours, c'est beaucoup plus agréable à porter que 12 kilos, c'est vraiment c'est vraiment dur.
Sachant que j'imagine qu'on achète aussi des souvenirs et que finalement le sac il va se remplir encore un peu plus à la fin quoi.
C'est ça.
Donc
c'est ça.
Du coup toi tu disais que t'étais partie toute seule. Et mais t'as rencontré quelqu'un alors?
Ouais.
Raconte-moi alors, comment ça s'est passé le voyage au départ.
Alors le départ, donc moi je partais seule, donc j'avais réservé mes billets, j'avais mes dates et je savais que j'allais faire le Vietnam du sud au nord. Donc j'allais partir de Ho Chi Minh jusqu'à Hanoï en visitant, etc. Et il y a un super groupe pour les filles qui s'appelle We Are Backpackers sur Facebook et c'est un groupe. Très
on
bien
mettra le lien aussi. Ouais
vraiment, et c'est un gros groupe. Hein, c'est vraiment un gros groupe. Et c'est, c'est pour les voyageurs, voyageuses, qu'elles soient seules ou en groupe, etc. Donc, ça va, les gens vont poster quels sont vos conseils pour visiter n'importe quel pays. Et il y a des filles qui partent à faire des road trips en moto, en Iran. Enfin, il y avait des trucs vraiment improbables, des filles en Amérique latine, en van, etc. Et puis, il y a aussi des gens comme moi qui, je voyage seule. Je vais dans ce pays-là, ces dates-là. Qui veut, si vous voulez m'accompagner ou si vous voulez me rejoindre, faites-moi savoir. Ouais. Et du coup, moi j'avais mis, je vais faire le Vietnam du sud au nord. Voilà mes dates. Et j'ai mis aussi, mon style de voyage parce que je pense que c'est très important. On n'a pas du tout les mêmes styles. Il y en a beaucoup qui aiment sortir, faire la fête, boire des verres. Enfin, moi j'aime bien faire ça. Mais quitte à choisir, je préfère me lever le lendemain matin plus tôt pour aller visiter quelque chose. Plutôt que d'aller prendre des verres la veille au soir. Enfin, s'il y a l'occasion, je le fais. Mais voilà. Et par exemple, pareil, toute cette histoire de McDonald's, de faire des fast-food, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai dit, c'est nourriture locale. Mais d'un côté, je peux vous aider. C'est un peu mon kiff. Donc, voilà. Et voilà comment je voyage. J'ai mon côté un peu mamie et tout, etc. Et j'avais mis mes dates. Et j'avais mis aussi dans quel contexte aussi je partais. Donc, ce que je viens d'expliquer. Et du coup, Célia m'a écrit. Célia m'a écrit sur Facebook et elle m'a dit, puis vraiment 3 jours avant le départ, elle m'a dit c'est quoi ton auberge à Ho Chi Minh? Et je lui donne mon auberge, elle dit bon, ok, je serai là la veille de ton arrivée et on se voit là-bas.
Super.
Et voilà, donc du coup je suis arrivée à l'auberge à Ho Chi Minh et du coup j'ai rencontré Célia. Donc au début c'est toujours un peu bizarre parce qu'on est un peu timide, etc. Et puis on apprend à se connaître et puis après je lui dis dans le sud du Vietnam, il y a le Mékong, j'aimerais bien visiter ça. Mon guide, il me dit de faire ça. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Parce qu'il y avait des visites organisées. Mais quand on est à deux, on peut faire des choses un peu plus en détail. On est un peu plus libre que de suivre un groupe.
Et du coup, des visites privées, en fait.
Oui, voilà. Donc, il y a des visites. Donc, ça, c'est très bien quand on est un voyageur tout seul. Donc, je pense que c'est ce que j'aurais fait si, j'avais pas rencontré Célia, par exemple. Et du coup, on s'est fait tout notre petit tour du Mékong. Donc, on est parti, je crois, environ 4 jours. Et en fait, on s'est bien entendu, on avait le même rythme. Et du coup, on s'est dit, tu veux continuer? Elle m'a dit, oui, je veux bien continuer et tout, donc avec toi. Donc, du coup, on a fini le Vietnam ensemble. Donc, même moi, ça rassurait mes parents.
Bien sûr, ouais.
Parce que j'avais 28 ans quand même, on reste assez jeune. Et elle aussi, je crois qu'elle a 2 ans de moins que moi, je crois qu'elle a 26 ans. Donc, C'est rassurant aussi d'avoir une femme à ses côtés, une copine. Et au final, on a vécu tellement de choses que je n'ai pas envie de dire c'est comme ma sœur, mais parce qu'il y a des moments tellement stressants ensemble qu'on a rigolé ensemble. On s'est un peu aussi, comme on dit, tapé sur la gueule parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur ce qu'il fallait faire. Mais on est tellement restés soudés que voilà, je pense qu'on a un lien très fort. En tout cas, moi, de mon côté, je le ressens comme ça. Donc,
ouais. Bah, c'est sûr que vivre des choses à l'autre bout du monde avec une personne que tu connais pas, au final, si les choses sont fortes, ça soude.
Oui, ça rapproche. Et en fait, on est obligé de mettre un peu des choses de côté. Par exemple, notre mauvaise humeur ou quoi, on est obligé de l'atténuer. Et en fait, du coup, on apprend beaucoup sur soi. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très stressé quand ça se passe pas exactement comme j'ai envie. Des fois, je sais que je peux partir en crise d'angoisse. Et là, mais en fait, il n'y a pas la place, il n'y a pas le moment, parce qu'on n'a pas envie non plus de pourrir le voyage de l'autre. Et on se dit, c'est soit ça, soit je suis toute seule. Et j'étais là, en fait, moi, j'apprécie tellement la compagnie de Célia que je ne vais pas me faire à une crise d'angoisse ou une crise de stress, parce que j'apprécie plus sa compagnie que, ce n'est pas comme l'histoire quand j'étais en Andalousie avec le gars qui me saoulait. Là, j'ai fait non, là, je préférais être toute seule. Non, j'ai tellement apprécié sa compagnie que, en fait, on prend sur soi et au final, on apprend.
Ouais. Et du coup, quelle est la fameuse histoire qui vous a soudé à vie? À partir de quand le voyage idyllique a brillé?
Alors, c'est vraiment marrant parce que du coup, on a fait le Mekong. Et à ce moment-là, on avait vraiment en plus trouvé une hôte vietnamienne hyper sympa qui nous avait amené dans des petits coins. Il y avait zéro touriste. Et je me souviens, on était sur notre petite barque dans le Mekong. On était là, oh, ça se passe vraiment trop bien notre voyage. On est vraiment hyper contentes. Et en plus, c'était le sud du Vietnam qui est réputé pour être moins beau que le nord du Vietnam. On avait tous dit, le nord, c'est magnifique, etc. Et nous, on était là, déjà le sud, c'est super. Donc, on a hâte de voir le nord. Donc, on arrive déjà au centre du Vietnam. Et en fait, c'était la saison des pluies à ce moment-là pour le centre du Vietnam. Et du coup, on reste qu'une journée ou deux jours, mais des pluies, mais torrentielles, tellement torrentielles que notre avion, le soir, donc à 9h, ne décolle pas pour aller rejoindre la capitale.
Ah oui, d'accord.
Voilà, et c'était une compagnie low cost, c'est l'équivalent du low cost qu'on a ici. Et du coup, à 9h, ils ont dit, vol annulé, revenez demain. Ils étaient là, mais enfin, vous ne payez pas l'hôtel. Non, en fait, c'est l'Asie, donc il faut vraiment se débrouiller. Donc là, on était là, oh là là, comment on va faire, etc. Moi, dès que l'avion décolle pas, je regarde les hôtels sur Booking près de l'aéroport pour être sûre d'avoir une chambre, parce que je me suis dit, moi, je veux pas dormir à l'aéroport, c'est hors de question, je dors pas là-dedans. Donc, il me faut un lit. Donc, je trouve une chambre de libre. Et là, on commence à s'aventurer dans les rues derrière l'aéroport. On avait de l'eau jusqu'aux genoux. Il y avait plus d'électricité. Il y avait plus rien. On ne trouvait pas l'auberge, etc. Et puis, à un moment, je ne sais pas comment on a fait, mais on a trouvé l'auberge. On est en train de tambouriner comme des folles à la porte, genre « ouvrez-nous !» Il y avait des pluies torrentielles, on était trempés avec nos sacs à dos, etc. Et le gars, mais genre 36 000 ans à ouvrir la porte, il était très chill. C'est l'Asie, donc c'est très relax. Et il dit « en fait, je suis désolée, je n'ai pas d'électricité. » mais je peux vous annuler sans frais votre nuit. On s'est dit non, c'est pas grave, on veut au moins dormir dans un lit.
Même il y avait de la place.
Oui, il y avait de la place, okay. On avait réservé, mais il a dit je peux vous l'annuler gratuitement puisque j'ai pas d'électricité, parce qu'il y a une coupure d'électricité. Donc on se dit c'est pas grave, on se met dans notre chambre d'hôtel, et c'est là que ma lampe dynamo a été bien efficace,
la fameuse.
C'est ça, parce qu'il fallait aussi économiser notre batterie de téléphone, et on était en train de regarder pour rentrer en bus, et les bus étaient complets, on avait attendu une demi-heure de plus et tous les bus étaient complets. On était là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un vol? Est-ce qu'on prend un bus? Je suis en train de regarder les infos, et en fait, on a eu des inondations historiques dans la région où on était.
D'accord.
Plus de vol, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas pu décoller. Donc je préfère qu'ils n'aient pas décollé, mais quand même. Donc, on s'est dit, oh là là. Bon, au final, pour la faire vite, donc on a passé la nuit dans cette auberge-là, mais j'étais déjà bien stressée. Le lendemain, on s'est pointé à l'aéroport très tôt. Mais c'est l'Asie, c'est très particulier. Donc, je suis allée trois fois au check-in là, de la compagnie aérienne. Mm-hmm. Et en une demi... Enfin, on a attendu, on arrive à 8 heures. Et je crois à midi, ils nous ont dit, OK, vous avez un vol dans une demi-heure. On a pris tous nos affaires.
Ouais, prêt.
On est parti, on a décollé en une demi-heure, 45 minutes. On était dans l'avion pour Hanoï, parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir pendant quelques temps. Et du coup, on s'était là, enfin, on n'en revenait pas, on était contentes, un peu déçues parce qu'on avait dû décaler un peu ce qu'on voulait faire, mais on s'est dit, bon, au moins, on est dans la capitale, on ne sera plus dans la saison des pluies, donc on va passer à autre chose. Mais voilà, on n'en revenait pas et on s'est dit, voilà notre merde du voyage, hein, pour parler comme il faut parler, mais il y a toujours, surtout quand on parle longtemps, on savait qu'à un moment, il y allait avoir...
Il y a un pépin.
Exactement, il va y avoir un pépin et on pensait que c'était notre pépin, mais en fait, ça, c'était rien. Genre ça, c'était rien. Au final, c'est qu'un vol annulé, on en reprend un autre, tant pis, ça coûte un petit peu d'argent, mais c'est pas grave, on est aussi en Asie pour, voilà, il faut avoir un peu d'égo nu aussi, donc on accepte les coups. Et donc, on arrive à Hanoï et donc on passe une nuit à Hanoï et le lendemain, on devait partir pour faire la boucle d'Ajiang à moto. Donc, c'est une... Peut-être ceux qui sont partis au Vietnam le savent, c'est le truc à faire pour les voyageurs. Donc, c'est tout sur le nord-ouest du Vietnam. Et on peut partir 4-5 jours à moto et ça longe en fait la frontière chinoise et on passe vraiment dans la pampa vietnamienne, à la bordure de la... Enfin, vraiment la frontière chinoise. On voit des autochtones, moi, c'est ça. Hein. Donc, c'est vraiment magnifique. Et tout le monde nous avait dit que du bien. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi de horror stories. Donc, moi, je me souviens, le premier jour que je suis arrivée au Vietnam, il y avait un gars qui avait un bras cassé, une cheville foulée et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait ? Ah, bah, j'ai fait la loupe d'Ajiang.
Donc, on était... Ah, OK. À vos risques et périls, quoi.
Exactement. Donc, on était pas trop sûrs. On nous avait recommandé une agence, en fait, pour réserver des tours. Donc, en fait, on peut le faire tout seul ou on se dit, bah, on fait notre boucle. Mais aussi, il y a des agences qui proposent pour des voyageurs avec des conducteurs. Donc Célia, elle avait pris son conducteur. Moi, j'avais rencontré quelqu'un sur place qui était un motard. Donc du coup, on s'était mis ensemble et on voyageait. Du coup, pour la suite du Vietnam, on a voyagé ensemble tous les trois. Donc on était trois Français. Et la première nuit, on passe dans la première auberge où on dépose nos gros sacs à dos. Et comme on partait pour 4-5 jours, bah on a juste pris un petit sac à dos avec le nécessaire. Et je me souviens, la gérante de l'auberge dit, vous pouvez laisser en fait toutes vos affaires, laissez même vos passeports, etc. Parce que la porte sera fermée à clé et il n'y aura pas de souci parce que là-bas sur place, vous n'aurez pas besoin de votre passeport. Moi, je me suis dit, bon, attends, je suis quand même à l'autre bout du Vietnam. On m'a toujours dit qu'il faut prendre son passeport avec soi. Moi, je prends mon passeport. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon passeport et je pense que, voilà, je n'aurais pas dû, mais j'ai pris mon passeport quand même. Donc, on fait notre premier jour à moto, etc. On voit des paysages magnifiques. Il y a plein d'autres voyageurs avec nous. On s'arrête pour prendre des photos, etc. Et le soir, donc, on arrive à notre deuxième auberge de jeunesse. Donc, déjà, on est un peu plus reclus dans la jungle vietnamienne. Le soir, il y a un dîner d'organiser. On parle avec les autres voyageurs. C'est très international. Il y a des Anglais, des Français, de Nouvelle-Zélande. Enfin bref, tout se passe bien et après le dîner, on s'installe dans le jardin de l'auberge. Donc moi, j'avais laissé mes affaires dans ma chambre parce qu'on est vraiment dans le jardin de l'auberge et on partait le lendemain avec les mêmes voyageurs. Donc il n'y a même pas un risque de vol comme on est dans les grandes villes. Non, on partait avec les mêmes voyageurs le lendemain.
Il y avait que vous, quoi. Même temps.
Exactement. Donc moi, je laisse mes affaires là et sur moi, j'ai que mon téléphone et ma veste et mon legging, quoi. Donc il était, je pense 20h30, 21h. Et on est en train de boire un verre autour, un petit feu de camp, etc. Et d'un seul coup, on entend un clac. On se retourne et on voit de la fumée sur le toit de notre auberge. Puis on regarde. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pour moi, ça a duré 10 secondes. Est-ce que ça a duré moins? Est-ce que ça a duré plus? Parce que dans ces moments-là, on ne sait jamais combien de temps ça dure exactement. Et je pense qu'en 10 secondes, j'ai vu le toit complètement en feu. Et à ce moment-là, quand le toit est en feu... En fait, t'as pas le temps de dire « je rentre, je prends mes affaires, il y a le temps, etc. » Non, en fait, c'est le toit est en feu, ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Et on se dit « tant pis ». Et là, du coup, nous, on était quand même dans... Mais bon, ça se voyait, on était juste à côté, quoi. On était dans le jardin, donc c'était à 5-6 mètres, quoi, même pas.
Exactement.
Donc nous, on se recule un peu à ce moment-là. Sauf que comme il était 20h30 à peu près, il y avait des gens qui prenaient leur douche. Et j'ai cru à ce moment-là...
À l'intérieur, évidemment.
Ah oui, à l'intérieur. Et j'ai cru à ce moment-là voir des gens mourir parce que tout était couleur orange, un peu comme dans les films avec un feu tellement intense une personne sortait des douches et dans le rush, il ne savait pas s'il fallait tirer ou ouvrir la porte. Et comme c'était une porte en verre, je voyais sa silhouette. Il était grand et il essayait en fait de tirer ou de pousser la porte. Et je peux comprendre avec le stress, on ne sait pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, on ne meurt pas en fait brûlé, on meurt d'asphyxie. et je me suis dit, je vais le voir s'écrouler sous mes yeux, en fait. Je me suis dit, je vais le voir s'écrouler. Et heureusement, il a réussi à ouvrir la porte et il a déboulé les escaliers. Mais comme les escaliers, je crois, étaient en marbre, enfin, je ne sais plus en quelle matière, en fait, il s'est brûlé les pieds. Et plus tard, je l'ai retrouvé. Oh, donc, on est descendu dans le village pour aller dans une autre auberge de jeunesse qui était à quelques mètres, en fait, au final, pas trop loin. Je l'ai vu avec toute la peau du pied qui se décollait, en train de hurler parce que c'était, oh, enfin, c'était hyper douloureux. Et j'étais là, je me sentais tellement impuissante parce qu'il y en a, ils essayaient un peu d'essayer d'éteindre le feu avec l'eau qu'ils avaient trouvée. Mais moi, j'étais là, mais en fait, je me sens tellement inutile dans ces moments-là. Le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est de lui verser une bouteille d'eau sur le pied. Mais je ne sais même pas si ça a été utile. Mais c'est, bah, à ces moments-là, on se sent tellement impuissant.
Oui, j'avais demandé comment tu t'es sentie.
Impuissante. Il y a aussi un moment très égoïste, je pense, de ma part, quand je me suis dit, mais en fait, j'ai toutes mes affaires et j'ai mon passeport dedans. Je me suis dit, je suis dans la merde. C'est très égoïste. Mais en fait, on pense à tout. Après, on voit des gens qui sont en train de survivre, etc. Enfin, voilà. Et surtout, après, ce qui nous importait le plus, c'est de savoir s'il n'y avait pas eu de mort. Alors, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu deux blessés, donc cette personne-là. Et je crois qu'il y a eu un local qui a été blessé, de ce que j'ai entendu. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, on se sent tellement impuissant parce que, enfin, on peut pas appeler les pompiers. Il y a pas de pompiers en fait. On n'est même pas en centre-ville. Hein. On est dans un village. Donc, en fait, c'est des locaux qui sont arrivés avec sur une mobilette. C'était trois sur une mobilette avec des râteaux.
Avec des râteaux.
Avec des râteaux. Il y avait même pas, voilà, un camion de pompiers, etc. Et heureusement, en fait, ce qu'il y avait devant l'auberge, il y avait une sorte de bassin à poissons. Mmh. Et les gens ont pris les casques des motos. Pour verser sur...
Comme un seau.
Ouais, pour verser sur l'auberge qui était en train de prendre feu. Donc, voilà, moi, j'ai pas vu ce moment-là. J'ai su après parce que, enfin, moi, j'ai voulu partir un peu pour... Enfin, j'ai pas voulu avoir des débris qui tombaient.
Pour se protéger, oui.
Exactement. Et aussi, donc, on pense à ça. Et aussi, on pense à un moment, le lendemain, il y a un moment très humble où on se dit, bon, on a survécu, mais bon, nous, on a de la chance, entre guillemets, d'être ici en vacances. Donc, entre guillemets, on a les moyens, je veux dire, si on s'est payé un billet d'avion aller, on peut se payer un billet d'avion retour. Tout ce qu'on a perdu, on peut se racheter. Mais en fait, cette auberge-là, elle appartient à une famille vietnamienne. Mmh. Et on sait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes moyens. Et là, en fait, ils ont tout leur gagne-pain qui a brûlé, qui est parti en morceaux. Ils devaient accueillir tous les jours, ils accueillaient une vingtaine de voyageurs. Et bien là, ils ne peuvent plus. Donc, il y a un moment, voilà, très humble. On savait qu'il y avait des enfants. On avait vu des enfants aussi le soir. Et donc, du coup, bon, heureusement, tout le monde est venu sain et sauf. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le feu a été éteint, mais il était, je sais pas, c'était vers 23h, minuit, on a trouvé un hôtel encore un peu plus bas dans le village où il y avait un peu plus, entre guillemets, de civilisation. On s'est réservé une chambre d'hôtel, nous trois. Mais bon, on n'a pas dormi cette nuit-là. Hein, c'était horrible.
Vous étiez... l'état nerveux devait être...
Ouais. Moi, je tremblais. J'ai tremblé, je claquais des dents. J'ai fait ça pendant, je pense, toute la soirée, un petit peu le lendemain, je crois aussi, mais toute la soirée. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. Certaines personnes étaient plus assises, elles en discutaient, elles en parlaient. Moi, j'étais comme ça, j'essayais de joindre ma famille, mais bon, il était 23h, donc je crois qu'il était 15h de l'après-midi en pleine semaine. Les gens travaillent, en fait. Donc, j'essayais de joindre tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un puisse répondre au téléphone. Alors que c'est pas, entre guillemets, la chose à faire, parce qu'au final, ça les panique plus qu'autre chose, parce qu'on est dans un état de panique. Mais moi, à ce moment-là, je voulais juste entendre une voix familière, en fait, et rassurante.
Pour toi, ouais.
Exactement, de me dire, en fait, je suis pas seule, etc. Voilà, donc une fois, bon, j'ai pu réussir à joindre quelqu'un. Heureusement, mes co-voyageurs, ils avaient leur banane avec eux, avec leur passeport et leur argent. Moi, j'avais plus rien. J'avais l'équivalent de 200 euros que j'avais retiré cash, parce que je devais payer l'agence, donc j'avais retiré du cash. Partie en fumée, oui. Passeport en fumée, j'avais m'étais acheté une petite tablette électronique parce que j'avais pris un vol low cost, donc je voulais me regarder des films brûlés, mon guide du routard que je chérissais brûlé. Puis après, tous les trucs un petit peu stupides, mais on est là, fait chier, on est la brosse à dents, la brosse à cheveux, les serviettes, le maillot de bain, des vêtements, voilà, enfin mes tongs, mes chaussures, voilà. Donc heureusement, c'était le petit sac à dos, mais quand même, il me manquait 2-3 trucs. Donc le soir, heureusement, avec tout le cash qui nous restait, on s'est racheté brosse à dents et dentifrice, quoi, au moins ça.
Ouais.
Et le lendemain, donc, quand on a rejoint l'auberge, parce qu'on s'est dit, bon, il faut quand même qu'on rejoigne là.
La grosse auberge où vous aviez... Ah non, l'auberge qui a brûlé ou la grosse auberge où vous aviez laissé vos sacs ?
L'auberge qui a brûlé. Parce que d'accord. Premièrement, il y avait la police. Enfin, déjà, quand on a affaire à la police vietnamienne, on est là, genre, on n'avait juste pas du tout envie de faire la police vietnamienne. Parce qu'il faut quand même qu'ils fassent un peu l'état des lieux. Enfin, c'était hyper stressant. Mais c'était pas du tout agréable. Et heureusement, en fait, certaines personnes avaient pris toutes leurs affaires dans les douches. Et ils ont pu récupérer, comme c'était dans les douches, c'était assez humide et ça n'avait pas brûlé.
Ah, ça n'avait pas brûlé, d'accord.
Ouais, et d'autres personnes, moi j'étais au premier étage, donc tout le premier étage a cramé. Donc il ne restait même plus la structure des lits, il ne restait plus rien. C'était...
Oh là là. Et vous savez, au final, pourquoi ça s'est déclenché, le feu ? Vous avez réussi à savoir ?
C'est hypothétique, comme ça a commencé du toit, ça n'a pas commencé des cuisines. On pense que c'est un court-circuit électrique, ce qui est assez courant. Et surtout à ces heures-là, vers 20h, en fait, les gens sont en pause, donc ils branchent leur téléphone, etc. Et comme c'était un toit de paille, ça a pris ouais. très vite. On pense que c'est ça. C'est le toit, c'est forcément électrique. Ça ne peut pas être un mégot, ça ne peut pas être les cuisines, donc on pense que c'est ça.
D'accord.
Et donc ensuite, une fois qu'il y a la police, état des lieux qui a été fait, on a pu contacter l'agence, donc la première auberge a resté notre gros sac à dos, qui nous ont ramené en voiture.
Ils sont venus vous chercher et ils vous ont ramené.
Exactement, ouais, ils nous ont ramené. Donc là, on a pu récupérer un gros sac à dos. Alors moi, ce qui s'est passé pour continuer dans le cauchemar, c'est que je suis une voyageuse, j'ai déjà voyagé quand même quelques fois toute seule, donc je pars toujours avec deux cartes bleues. Donc, j'avais laissé une carte bleue dans mon gros sac à dos et une carte bleue avec moi. Donc, j'avais ma carte bleue allemande et ma carte bleue française.
Okay.
Ma carte bleue allemande a complètement brûlé, mais elle était toujours valide. Et donc, du coup, sur le chemin pour entrer dans la première auberge de jeunesse, j'avais mon gros sac à dos, il me restait ma carte bleue française. Et je me suis dit, tiens, comme j'ai perdu mon passeport, je ne vais pas pouvoir aller au Cambodge, je ne vais pas pouvoir aller en Thaïlande, donc il va falloir que je rentre plus tôt. Je vais écrire à ma banque pour savoir si, dans l'assurance avec ma carte bleue, autant donner des faits, est-ce que j'ai droit d'avoir... Je posais juste la question et je pense qu'avec un peu... Parce que j'étais encore dans un état un peu de choc et de panique, j'ai dû mal poser ma question et j'ai dit en effet que mes affaires avaient brûlé, dont ma carte bleue. Mais je n'avais pas précisé que c'était une autre carte bleue. Voilà. Et là, la banque me répond par mail, nous avons bien fait opposition à votre carte.
Ah, pas du tout ce que tu avais demandé ?
Pas du tout ce que j'avais demandé, mais je suis sûre, j'ai la preuve, j'avais terminé mon email avec une question, quels sont mes droits au niveau de l'assurance ? J'avais pas dit bloquer ma carte, c'est terminé. Et là, impossible de les joindre avec le forfait vietnamien européen que j'avais. C'était vraiment impossible et j'envoie un email, j'ai dit mais en fait là, moi je viens de perdre mon passeport, vous m'avez... bloqué, c'est irréversible, mais faire opposition c'est irréversible.
Ouais. Donc là t'avais perdu ton passeport, ta carte bleue allemande avait brûlé et ta carte bleue française n'était plus en état de fonctionner.
Exactement.
Bah, génial.
Et là je me suis dit, et tout le peu de cash qui me restait avait brûlé, et là je me suis dit je suis vraiment dans la merde. Donc du coup, j'étais en état de panique. J'étais toute seule sur ma chaise, j'étais en train de pleurer. Mais personne pouvait me consoler parce que tout le monde était en état de stress.
Affairé à ses affaires, oui, bien sûr.
Tout le monde était dans son propre état de stress et moi j'étais là, mais je suis, qu'est-ce que je fais ? J'ai plus d'argent. Autant un passeport, mais t'as de l'argent, t'attends. Mais là, j'ai plus de passeport et j'ai plus d'argent. Ça veut dire que on peut même pas me faire un Western Union parce que tout le monde m'a dit il faut faire un Western Union et je suis là, mais j'ai plus de passeport. C'est-à-dire que je peux même pas prouver mon identité pour dire j'ai besoin d'argent. Donc à ce moment-là, moi je parle avec Célia, je lui dis écoute Célia, il faut absolument que je rentre de toute façon il faut qu'on rentre dans la capitale là, on va pas rester dans la pampa vietnamienne, j'ai plus de passeport, j'ai plus d'argent, donc il faut au moins que j'aille à l'ambassade.
Bah, c'est ça, ouais.
Donc on prend un bus de nuit et on arrive à l'ambassade et entre-temps j'avais écrit à l'ambassade et j'avais eu un rendez-vous très rapidement,
okay.
J'avais rendez-vous le jeudi à 11h, donc j'arrive la nuit du mercredi au jeudi, moi à l'ambassade j'arrive, j'explique ce qui se passe. Ce qui s'est passé, et ils me disent ok, on va vous faire un laissez-passer. Donc un laissez-passer, c'est juste une feuille de papier qui me permet de rentrer en France, ça me permet pas de rentrer en Allemagne là où j'habite. Mm-hmm. Je dis au moins je suis dans mon propre pays, quoi. Donc c'est déjà, et je suis en Europe, donc c'est déjà pas mal. Donc je dis ok, donc il me dit voilà, faut que vous reveniez demain avec un billet d'avion, enfin avec les papiers nécessaires. Donc entre temps, moi j'appelle mes parents parce que j'ai pas d'autre choix, je peux même pas m'acheter en ligne un billet d'avion. Je suis obligée de... Donc, mes parents m'achètent un billet d'avion, etc. Ils me donnent les papiers dont j'ai besoin. Entre-temps, je demande à Célia si, mes parents peuvent lui envoyer de l'argent via Western Union pour après me le donner. Donc, je devais quand même avoir un niveau de confiance. Enfin, Célia, qu'au final, je connaissais depuis 2 semaines.
Ouais, ouais.
Donc voilà, donc ça s'est pas terminé en cauchemar. Elle m'a pas volé l'argent, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, mais fallait quand même avoir confiance parce que c'était l'équivalent voilà, de 900 euros. Vous dire, voilà, il faut avoir confiance.
Mm-mm.
Je passe les détails pour retirer l'argent à Western Union au Vietnam. C'est la galère parce que les banques, elles n'ont pas tous des dollars. Enfin, on a fait, je crois, on a fait 8 banques au total.
Ah, ok.
Au début, je voulais le faire avec Célia, puis en fait, au final, ça prenait tellement de temps. Je devais aller à l'ambassade, elle l'a fait toute seule. Enfin bref, bon, au final on a pu retirer l'argent et moi j'ai pu avoir mon laissez-passer et quand je m'en laissais passer, moi je dis il n'y a pas de problème au niveau du visa parce que moi j'avais un vol retour, du coup j'avais acheté un vol retour le 3, je crois que c'était ça, ouais, le 3 novembre et mon visa allait jusqu'au lundi 5 je crois que c'était elle me dit non, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, bah, nous, on profite des 2 dernières semaines qui nous restent. On finit la baie d'Along, on fait, bref, tout ce qu'on voulait faire, du coup, au Vietnam. Et ça s'est bien passé. Enfin, j'ai des très bons souvenirs à ce moment-là. Jusqu'à ce que vienne le jour du départ. Donc, le vendredi soir, le vendredi 3. Et Célia partait le samedi 4 matin, donc très tôt, en Thaïlande. Donc, elle continuait son voyage. Et du coup, on se dit au revoir, on est vraiment dans l'émotion. On se dit, oh là là.
Après toutes les choses que vous avez vécues, ouais.
Exactement, enfin c'était voilà. Puis à la fin, on avait marre d'Hanoï, hein. On avait vraiment envie de partir, donc on avait toute la hâte de partir. Et moi, je suis donc à l'aéroport, donc assez tôt, vers 20h, mon vol est à 23h. Parce que je me suis dit, avec mon papier, les Vietnamiens, ils sont très procéduriers, donc voilà, j'ai pris du temps. Je dis, ah, je suis quand même un peu triste de ne pas aller au Cambodge, mais bon, au moins, je vais rentrer et tout, etc., ce sera bien. Et là, quand je vais faire mon check-in de mon gros sac, on me dit non, il faut que vous alliez à l'immigration office, là, au bureau des immigrations là, de l'aéroport. Y a un problème avec vos papiers. Je dis bon, c'est normal. Voilà.
Et comment ?
J'arrive et le gars me regarde droit dans les yeux sans une once d'émotion, etc. Il me dit non, il vous manque un papier. Et là, je m'effondre devant le gars, mais vraiment littéralement. Hein, je crois que je m'effondre devant tous les voyageurs en pleurs. Je leur dis mais écoutez, je voyage toute seule, j'ai plus d'argent, j'ai plus de passeport. J'ai un vol direct pour la France. Je quitte votre pays pour entrer dans le mien. Donc, s'il y a un problème, entre guillemets, c'est la France qui s'en charge. Voilà, c'est plus le vôtre. Moi, je suis... En fait, entre guillemets, j'ai envie de partir parce que je vais être illégale dans votre pays parce que mon visa arrive à expiration. Donc, vraiment, aidez-moi. Et le papier était fourni par l'ambassade. Donc, je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et le gars, moi, je me suis effondrée devant lui. Il n'y a aucune... d'empathie, mais bon, après, c'est normal, hein, c'est aussi leur culture, hein, ils sont très distanciés, aussi, okay. les personnes asiatiques.
Et t'as dit ce qu'il manquait ?
Il me dit, alors, j'ai demandé, genre, écoutez, dites-moi la procédure, il me dit, il faut que vous alliez à l'ambassade, au bureau d'immigration de Hanoï, que vous reveniez à l'ambassade, qu'il fasse un papier. J'ai rien compris ce qu'il manquait, mais il manquait un papier. J'appelle le numéro d'urgence de l'ambassade, parce que là,
il est 20h, l'ambassade est fermée.
Voilà, bah c'est ça, parce que l'ambassade, ça ouvre du lundi au vendredi. Ils ont des horaires de bureau, quoi.
Ouais.
Et donc, heureusement, il y avait un numéro d'urgence que j'appelle avec mon numéro français. Et ça dure 1 heure, hein, cette histoire, entre faire les traductions, entre tous les bureaux, etc. Et en fait, la fille me dit qu'il me manque un papier, en effet, que l'ambassade a oublié de me donner un papier.
Oh,
et
yeah,
c'était un visa de sortie.
Ah!
Voilà, c'était un exit visa, donc c'est ce que j'ai compris, ce qui me manquait. Il me manquait voilà, un visa de sortie.
Une permission de quitter le pays, quoi.
Voilà, une permission de quitter le pays, etc., que je suis bien en règle, mais que voilà. Et donc elle me dit, vous pouvez reprendre un vol lundi, parce que comme ça, vous allez pouvoir faire vos papiers lundi dans la journée et vous pouvez prendre un vol lundi soir. Donc moi, j'appelle ma mère pour rentrer à l'hôtel parce que j'ai plus de cash. Hein. Ça a été un peu la misère sans nom, mais bon, je suis rentrée à l'hôtel. Donc j'ai revu Célia. J'étais là, bon bah.
Oui, elle était toujours là. Ouais.
Toujours là parce qu'elle partait dans quelques heures. Et donc entre temps, moi j'appelle ma mère. Je lui dis, écoute, il faut je lui explique ce qui se passait. Donc elle me reprend un vol avec Qatar Airways le lundi soir, voilà. Et le samedi matin, même si on m'avait dit que c'était fermé, j'ai dit, je vais aller au bureau de l'immigration. Je vais aller au bureau de l'immigration et voilà, donc j'explique ce qui se passe. C'était très compliqué, le bureau d'immigration, hein, je vais la faire rapide, mais c'est quand je demandais de l'aide à un gars de la sécurité ou quoi, je lui demandais, j'ai dit « excuse me, I need help », il me regardait et il est parti. C'était dans un cauchemar. Moi, j'étais comme ça, j'ai perdu mon passeport de manière tragique. Tout le monde pensait que j'avais plus d'argent parce que j'avais tout dépensé, parce que j'étais blanche et que j'avais
fait plus là pour faire la fête.
Pour faire la fête et que j'avais fait un pickpocket. Et quand j'ai expliqué le truc, des fois, quand les gens me croyaient pas, je leur montrais la vidéo, quoi, aux Vietnamiens quand ils pensaient que bah, j'étais la touriste blanche, on va dire, typique. J'ai dit non, voilà comment j'ai perdu mon passeport, en fait. Donc, je suis pas là, enfin, je rigole pas, quoi. Je suis vraiment un peu en détresse. Et la fille, après 4 heures d'attente, la fille au guichet me dit, mais en fait, il faut...
Après 4 heures d'attente ?
Ah ouais, ouais, j'ai attendu toute la matinée. Je suis arrivée à 8 heures et je suis passée à midi.
Ah.
Donc, voilà, donc c'était bien stressant. Et elle me dit, bah, en fait, non, il faut 5 jours ouvrables. Ah. Donc, vous allez avoir votre papier le jeudi. Enfin, ouais, 4 jours ouvrables. Donc, prenez un vol le vendredi, comme ça, vous allez être sûre.
Moi, qu'est-ce que je fais ? Tu avais déjà réservé pour le lundi.
Bah oui. Moi, parce que dans la panique, c'est... Voilà, donc là, j'appelle ma mère, je dis, je suis désolée, il me faut réserver un autre vol. Donc, elle change le vol de Qatar Airways au vendredi. Donc, il faut aller payer plus, mais bon, au moins, c'est le même vol. Et donc, voilà. Entre-temps, moi, il faut savoir que je suis sans argent. Parce que Célia est partie, j'avais dépensé l'argent qui me restait. Il fallait quand même que je paye l'hôtel, que je passe un peu mon week-end à Hanoï, quoi. Enfin, j'avais des trucs à payer, quoi.
Ouais.
Et là, heureusement, l'ambassade m'avait donné contact d'une association qui s'appelle France, je crois que c'était Français Solidaire, et c'était un Français qui était établi au Vietnam, et avec sa femme vietnamienne, il faisait des prêts d'argent pour les Français en galère, comme moi.
Ah !
Alors, soit des Français qui avaient ouvert leur business au Vietnam et pendant le Covid, ça n'avait pas marché, enfin voilà, et ou bah, en fait des voyageurs comme moi, et il m'a dit, ok, donc on s'était vu le samedi après-midi après mon passage au bureau d'immigration. Il m'avait dit, ok, t'as besoin de combien ? J'ai dit ça, et il m'a donné tant en dong, donc directement. Mmh. Donc, comme ça, j'ai pu résoudre le problème de l'argent.
D'accord.
Donc, c'est déjà très problématique.
Et quelle chance ?
Oui, quelle chance, parce que là, entre-temps, c'est le week-end, donc l'ambassade, elle est fermée. Donc, c'était très compliqué, quoi. J'avais, enfin, c'est même pas comme si je pouvais un peu profiter. Bon, allez, je me paye un massage, je me détends en attendant, parce que le week-end, je peux rien faire, je suis sans pouvoir. Et le lundi à la première heure, je vais à l'ambassade et la fille me pose plein de questions. Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et elle me dit, bon, ok, j'ai compris. Allez vous prendre un café, ça peut prendre un petit peu de temps, mais au moins elle me dit, j'ai pas besoin d'apoireauter. Donc je vais me prendre un café, j'attends. Et là elle m'appelle, elle me dit, est-ce que vous voulez repartir le lendemain, le mardi? Je dis, bah oui, mais du coup, il faut que j'appelle ma mère, qu'elle me paye un billet d'avion. Ah. J'appelle ma mère. J'ai dit, elle me propose de partir mardi. Est-ce qu'il y a un vol, blablabla, etc. Donc, ma mère, il est 3h du matin en France, sur son ordinateur, en train de me réserver un vol. Et heureusement, il y avait un vol à moins de 1000 euros, parce que c'était un peu notre barrière quand même.
Ouais. On va
dire, moins de 1000 euros, un direct pour Paris, avec Vietnam Airlines. Et elle me prend le vol. Et là, donc, je retourne à l'ambassade. Elle me dit, il faut absolument que vous alliez au bureau des immigrations maintenant, avant que ça ferme entre midi et deux, parce que ça ferme entre midi et deux. Je vais au bureau des immigrations. J'arrive avant le déjeuner. Je reste jusqu'à 4 ou 5 heures, je crois. Donc, pareil,
oh là encore
4 ou 5 heures d'attente. Ouais. Quand je demande l'aide, personne ne m'aide, etc. Enfin, c'était vraiment horrible. Il y avait quelques couples franco-vietnamiens qui essayaient un peu de m'aider, qui essayaient de traduire parce que leur anglais n'est pas top. Et là, au bout d'un moment, je reçois un papier rose. J'envoie un WhatsApp à la fille de l'ambassade. J'avais même WhatsApp de la fille de l'ambassade.
J'avais pris ton WhatsApp.
Bah, j'étais complètement perdue, en fait. Enfin, j'étais... Voilà. Et je lui demande le papier. Est-ce que c'est ça ? Elle me dit... Oui, c'est ça. Elle me dit... Je crois que c'est ça. J'étais là, oh mon Dieu. J'en revenais pas. En plus, je commençais à être malade. Je commençais à avoir un rhume. Et mon vol était le mardi soir. Et du coup, le mardi, je me suis payé un massage. Je dis, je crois que j'ai le droit de payer un massage. Mais du coup, ouais, j'étais vachement beaucoup plus détendue. Enfin, pas plus détendue, mais je suis même allée au bureau de Vietnam Airlines pendant la journée du mardi, vérifier que le papier était conforme.
Ah ouais, ouais, voilà.
Ils ont, voilà, ils m'ont rappelé en mettant un message, en mettant un mail, en disant c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pourrez passer la police. Mais pareil, la police, ils m'ont regardé en détail comme ça, parce que je pense que, bah, voilà, ils ne doivent pas non plus bien comprendre ce qui se passe. Et j'ai pu voilà, rentrer directement en France. Et, puis, j'avais pas d'euros, mais heureusement, avec ma carte allemande qui avait brûlé, j'ai pu la mettre sur mon téléphone après coup. Et j'ai pu, du coup...
payer avec ton téléphone ou...
Exactement. Parce qu'en France, du coup, j'ai pu payer par téléphone à la gare et à l'aéroport à Paris, quoi. Mais voilà. Et ensuite, je suis rentrée chez mes parents. Et après, bon, j'ai pu refaire ma vie. Enfin, mes copines d'Allemagne m'avaient envoyé ma carte d'identité chez mes parents. Enfin, c'était vraiment le... Voilà. Donc, en fait... Il y a eu tellement d'horreur, enfin pas d'horreur, mais c'est le cauchemar en fait.
C'est un enchaînement de
c'est ça. Ça s'arrêtait pas. Genre les inondations, bon encore ça, ça passe. Ensuite l'incendie, ma carte bleue, l'ambassade qui fait une erreur. Enfin je me dis mais c'est pas possible. Et... Enfin voilà, donc c'était...
Est-ce que tu as pu être remboursée de quoi que ce soit ? Alors, soit par l'ambassade qui a fait une erreur, ou soit par les assurances, ou quoi que ce soit ?
Alors, l'ambassade, quand je l'ai eu au téléphone le vendredi, que j'étais en panique, et qui me dit, bah, faut reprendre un vol, j'ai dit, mais en fait, là, du coup, vous allez quand même me rembourser, ou je vais être aidée, parce que c'est quand même votre erreur, en fait, là, si je suis bloquée. Elle me dit, ah non, je comprends, dans la détresse dans laquelle vous êtes, mais non, on ne va pas pouvoir vous rembourser.
D'accord.
Donc là, j'ai fait, what ? Et en fait, c'est l'association. Il leur restait du budget depuis le Covid. Et quand je suis rentrée en France, ils m'ont dit, le gérant m'a dit, faites-moi tous vos frais qui ont été engendrés depuis l'erreur de l'ambassade, c'est-à-dire hôtel, vol, etc. etc. Et du coup, ils ont pu me rembourser ça. Et Qatar Airways, qui est en fait une très bonne compagnie, comme je suis arrivée avant le vol du vendredi, on a pu annuler le vol et on a été remboursé intégralement.
Ok, bon, il y a
quand même c'est ça. Et c'était que le vol du vendredi, du coup, on a pu être remboursé par l'ambassade. Par l'association.
Oui.
Le premier vol, en fait, que j'ai pas pu prendre à cause de l'erreur de l'ambassade, c'est l'association qui nous l'a remboursé.
D'accord.
Avec leur budget qui leur reste.
Elle t'a sauvé.
Elle m'a sauvé. Franchement, grosse publicité. Et c'est bien d'avoir des contacts.
Les descriptions, oui, pour les gens qui vont au Vietnam, ça peut aussi être un élément un peu rassurant pour dire si jamais il se passe quelque chose. Il y a des gens là-bas sur place qui parlent français aussi. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, cette aventure ? J'imagine que ça a chamboulé des choses, que la vie avant-après...
Ça forge le caractère parce que, en fait, le week-end, j'étais complètement dans un état de... En fait, j'étais stressée, mais genre, je pleurais pas, j'étais dans un état
second. Choque, hein.
Je choque et j'attendais, j'étais toute seule dans ma chambre d'hôtel, j'avais pas envie de rencontrer du monde, etc. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et moi, j'avais ma famille qui était vraiment en panique, un peu au téléphone, et en fait, les avoir en panique, ça me paniquait aussi. Mm. Et en fait, je leur ai dit, en fait, quand on y pense, c'est juste un problème administratif. Je suis pas là parce que j'ai vendu de la drogue au Vietnam, je suis pas en prison, c'est un problème administratif. Et ça, entre guillemets, ça se résout. Et j'ai envie de dire, tant qu'on a de l'argent dans le sens, si ça se règle en attendant, s'il me faut payer 3 nuits d'hôtel à 20€ la nuit, je me paierai 3 nuits d'hôtel à 20€ la nuit. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut remettre les choses dans son contexte.
Ouais.
Je suis saine et sauve. Voilà. Et en fait, quand je suis rentrée en Europe, moi, comme j'avais dit au début, j'étais quelqu'un de très stressé ou paniqué. Dès qu'il y a la moindre contrariété, je paniquais, je stressais, j'angoissais. Et dès que des fois, j'ai un peu ces sentiments-là, que ça bouillonne en fait un peu à l'intérieur de moi, je me dis, mais en fait, ça va en fait. Tant que ton toit n'est pas en train de brûler avec toutes tes affaires dedans et tes papiers, tant que tu as de l'argent, tant que tu as une carte bleue et que tu peux payer, c'est bon. Parce qu'en fait, moi, au Vietnam, je me suis retrouvée à un moment sans pouvoir payer, je devais dépendre de quelqu'un d'autre.
Mm-hmm.
Je me suis dit, tant que c'est bon, tu peux faire les choses par toi-même, que tu es indépendante, que tu peux te sortir d'une situation stressante ou dangereuse ou quoi que ce soit, c'est bon. La vie, c'est pas grave. La vie continue, il n'y a pas de souci. Et du coup, vraiment, ça m'a appris à... Je veux dire relativiser, ça fait un peu bateau, mais vraiment...
À mettre les choses en perspective, quoi.
C'est ça, à déstresser sur des petites choses. On programme des trucs entre amis, et puis ça se fait pas. Et au final, je passe ma journée toute seule. Oui, ça m'énerve, mais je suis là, bon, en fait, c'est rien. C'est rien par rapport à ce que t'as vécu et c'est pas grave.
Parce ouais.
que ton truc, il est pas en train de brûler et je me dis, tout va bien.
Et si t'avais une checklist un petit peu à partager, à nous partager, ça serait quoi une checklist un petit peu pour éviter de te retrouver dans la situation dans laquelle tu as été.
Alors, bon, la situation comme ça, on peut pas trop l'éviter, malheureusement, parce que c'est un incident. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de bonnes assurances, parce qu'on a, j'avais des assurances santé, dans le sens, quand j'ai créé l'assurance, ils m'ont demandé si j'étais blessée, par exemple, si j'étais cassée une jambe ou que j'avais besoin d'être hospitalisée, etc. Dans ce cas-là, ça prenait en charge, mais comme j'étais saine et sauve, il y avait rien, en fait, au final. Donc, ils m'ont dit, non, en fait, on ne peut pas vous payer un billet d'avion, retour. Donc, ça, c'est de base, normalement, dans votre carte bleue. Donc, en fait, il faut bien se renseigner sur ce qui est inclus et voir, en fait, votre prise de risque. Par exemple, si vous dites, moi, ce n'est pas grave si ma valise, elle est perdue dans le voyage, avec l'avion, etc., ne prenez pas. Mais voilà, donc, bien, il y a plein d'assurances, ça coûte assez cher. Mais franchement, je pense que quand on est dans des situations, surtout, je pense, quand on voyage seul. J'ai envie de dire, faut prendre un peu plus de risques quand on est à deux parce que...
Il y a des cartes bleues, il y a deux téléphones.
Voilà, exactement. Donc, bien vérifier ses assurances. Voilà, bien évidemment, prévenir sa banque qu'on est à l'étranger. Moi, j'avais prévenu qu'on était au Vietnam, mais bien communiquer. J'ai peut-être mal communiqué, je sais pas. Mais peut-être ne faites pas opposition, je sais pas. Bien communiquer avec sa banque pour prévenir que vous êtes. Voilà, parce que sinon, ils vont voir des retraits un peu particuliers. Quelque chose qui ne m'est pas arrivé, mais qui est arrivé à beaucoup de voyageurs, surtout en Asie. Quand on retire de l'argent avec sa carte bleue, le distributeur donne les billets avant. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, on retire l'argent
et on oublie la carte.
Exactement. Donc voilà, avoir ça en tête. Et dans ce cas-là, toujours avoir deux cartes bleues. Dans mon cas, ça n'a pas été suffisant, mais si on a, prendre une banque un peu gratuite et d'avoir deux cartes bleues, enfin une carte bleue, une carte de retrait, pour toujours et les mettre à des endroits différents. Moi, c'est ce que je fais, que ce soit carte bleue ou cash, parce que on est la cible de pickpocket. Hein. On est des touristes, ça se voit, on va pas le cacher. On est la cible de pickpocket, donc vraiment mettre de l'argent un peu partout, parce que comme ça, s'ils nous prennent dans le sac, on sait qu'on a dans la poche intérieure, on a un peu d'argent un peu partout, donc il y a pas de souci. Donc c'est ce que je fais. Il y a même des personnes qui voyagent avec deux téléphones. Parce que aussi, le téléphone, ça se fait beaucoup voler.
Okay.
Que ce soit en Asie, c'est plus de l'arracher. Donc, ce n'est pas violemment. Mais certains voyagent avec deux téléphones. Et je peux comprendre un vieux smartphone qui traîne. Ça peut, je pense, nous sauver la vie de mettre une carte SIM. Parce que quand on n'a pas Internet, c'est très compliqué. Surtout maintenant.
Ouais.
Donc, je pense que j'ai envie de dire, voyager avec ça, ce serait pas mal. Trouver les bons taux de change, etc. Et s'il y a un moment trop de stress, c'est pas grave. Normalement, si on part en Asie, c'est qu'on a un peu les moyens d'absorber en fait ces coûts-là et de partir avec toujours un peu une économie de sécurité en fait. De se dire, dans le pire des cas, je peux me payer un billet d'avion retour plus tôt. Et tout ira bien. Tout ira bien.
Bon, merci pour la checklist. Et j'ai une dernière question pour toi, Anna, si tu devais résumer ce voyage, ce périple, en une citation ou une punchline ou une phrase de ta création, ça serait laquelle ?
Enrichissant.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est enrichissant parce qu'au final, j'ai passé vraiment de très bons moments. Hein. Je veux dire, ça a été vraiment un voyage magnifique. Mais c'est vrai, quand on me demande le Vietnam, je suis un peu toujours un peu dans cette ambiguïté-là. Alors, ouais, c'était cool, mais en même temps, c'est très enrichissant parce que j'ai pu voyager, rencontrer des locaux. Et en même temps, j'ai tellement appris sur moi. J'ai appris sur le pays, j'ai appris sur la culture. Parce que à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Des Vietnamiens, j'étais là, je veux plus les voir. Mais au final, ils m'ont aidé aussi parce que j'ai rencontré des Vietnamiens adorables qui m'ont aidé. Par exemple, l'association, lui, il était français, elle était vietnamienne. Ils m'ont vraiment aidé, etc. Donc, c'est vraiment enrichissant sur tous les points, en fait, que ce soit découvrir une culture, découvrir soi-même sur ce qu'on peut encaisser. Moi, je pense que si on m'avait dit ce que j'aurais pu encaisser, j'aurais dit non, jamais de la vie. Je ne
pas. On a plus de ressources qu'on pense. Hein.
Exactement. Quand on est dans des situations en fait, de stress et d'emergency, en fait, on trouve beaucoup, beaucoup de ressources en soi. Je pense que c'est ce qui fait un voyageur et pas un touriste.
Ah, c'est pas mal cette dernière phrase. Merci beaucoup, Anna, d'avoir partagé cette expérience avec nous. J'espère qu'elle sera utile pour les gens qui nous écoutent. On va mettre tous les liens, bien sûr, en description pour que les gens puissent te suivre sur les réseaux. Et puis, n'hésitez pas à partager la checklist d'Anna à tous vos amis qui voyagent aussi. Et puis, Anna, je te souhaite de continuer à voyager et je te souhaite que le prochain voyage soit un petit peu plus calme quand même.
J'espère aussi, quand même. Merci à toi en tout cas.
Merci à toi. Salut Anna.
Salut.